Soyez les bienvenus, c'est le journal de Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous, tous les lycéens de France auront-ils leurs résultats du baccalauréat ce vendredi 5 juillet? Des enseignants en grève refusent de rentrer les notes dans le logiciel pour protester contre les réformes du lycée et du bac. Nous irons en Italie prendre des nouvelles du bateau Sea-Watch dont la capitaine a été arrêtée samedi. Que va devenir le navire? Personne n'en sait rien. À Hong Kong, retour au calme, mais Pékin réclame la tolérance zéro envers les manifestants violents. Lyon, capitale des Gaules, capitale du football féminin ce soir à 21h, une première demi-finale du mondial féminin Angleterre-États-Unis.
Dans 20 minutes à 7h50, je vous rappelle que l'invité de Léa Salamé est ce matin la directrice générale d'Oxfam France, j'ai nommé Cécile Duflot.
France Inter.
Et on a beaucoup parlé, Laurence, de la grève des surveillants du bac, mais certains professeurs ont aussi décidé de faire la grève des notes.
Une ultime épreuve pour les aspirants au baccalauréat. Leur stress pourrait durer plus longtemps que prévu. Enseignants correcteurs annoncent une rétention des copies et des notes, car c'est aujourd'hui, avant midi, qu'ils doivent rentrer les notes dans un logiciel afin que les jurys attribuent jeudi à chaque candidat les points nécessaires à l'obtention du bac et éventuellement d'une mention. Les professeurs grévistes voudraient retarder la publication des résultats attendus vendredi. Ils protestent toujours contre la réforme du lycée et du bac, Sonia Princé.
Manel est professeure d'histoire-géographie dans l'académie de Créteil. Elle avait 79 copies à corriger, toutes bloquées.
Je suis allée chercher mes copies, je les ai corrigées la semaine dernière. J'ai presque fini d'ailleurs, il n'y a que des petits détails sur les copies, les appréciations à faire. Mais je ne rentrerai pas les notes dans le logiciel, puisqu'on a un logiciel, on doit donc rentrer les notes avant midi. Donc là, je ne rentrerai pas les notes et je me mettrai en grève pour contester les réformes.
Ces enseignants prévoient de rendre les copies vendredi pour retarder la publication des résultats du bac, ce qui inquiète certains proviseurs comme Carole Zerbib, adjointe dans un lycée parisien et élue d'un syndicat de chefs d'établissement.
Il y a un certain nombre d'enseignants qui m'ont informé qu'ils ne feraient pas cette remontée de notes. On surveille un peu, on va voir ce que ça donne. Si les notes sont pas remontées, ça recule en fait les procédures pour les jurys de délibération qui doivent se tenir jeudi. Sans les notes, on ne peut pas délibérer, on ne peut pas proclamer les résultats.
Mais les résultats seront bien publiés, affirme le ministre Jean-Michel Blanquer, qui dénonce un sabotage.
Chacun aura ses résultats en temps et en heure et on a le droit d'avoir des points de vue différents sur des réformes, mais on n'a pas le droit d'avoir les élèves pris en otage de ces différences.
C'est maintenant le bras de fer. Le ministère menace les grévistes de sanctions jusqu'à 15 jours de retenue sur salaire tout le temps de la correction. Plus de 100 000 copies seraient retenues d'après les syndicats, du jamais vu dans l'histoire du bac.
Sonia Princé, un coup de massue chez les salariés du pays où la vie est moins chère. Conforama annonce la fermeture de 32 magasins sur 235 en France et la suppression de 1900 postes sur 9000. La maison mère sud-africaine, le groupe Steinhoff, est en mauvaise santé. La célèbre enseigne de meubles des années 60, pourtant précurseur des meubles en kit, ne s'est jamais vraiment remise de la déferlante Ikea. Le Suédois est lui aussi positionné sur le meuble bon marché. On en reparle dans le journal de 8h. De violents orages hier soir en région Auvergne-Rhône-Alpes. Des intempéries qui ont blessé deux personnes à Doussard, sur les bords du lac d'Annecy. 49 000 foyers sont toujours ce matin privés d'électricité. Arbres tombés sur les routes, toitures arrachées, TGV bloqués. Certains passagers du Paris-Grenoble ont été déroutés sur Lyon. Ils devaient attendre ce matin pour repartir. 5 départements sont en vigilance orange aux orages, nous disait Marie-Pierre Planchon. L'Ardèche, le Gard, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère. Et c'est un aspect tragique de la canicule et une des conséquences indirectes des fortes chaleurs qui se sont abattues sur la France ces derniers jours. La recrudescence de noyades, une par jour en moyenne, disait la semaine dernière, le Premier ministre Édouard Philippe. Parmi elles, 3 à Berck et au Touquet, sur la Côte d'Opale dans le Pas-de-Calais. À chaque fois, des témoins racontent que soudainement, ils n'avaient plus pied et qu'ils se sont retrouvés prisonniers de ce qu'on appelle les bâches. Mathieu Darrier.
Dans le sud-ouest, on les appelle les baïnes. Ici, ce sont les bâches, des trous qui peuvent atteindre 2 mètres de profondeur. Ils se forment à marée montante sur nos plages en pente douce. Rudolf Giollet est formateur de sauveteurs à la SNSM.
Les enfants qui ne veulent pas de vagues, ils vont se mettre à cet endroit-là parce que la mer sera plus calme et puis l'eau va être légèrement plus chaude. Le souci, c'est quand la mer va redescendre, toute cette eau qui a stagné, il va bien falloir qu'elle s'évacue. Donc elle va créer un courant qui va venir s'évacuer vers le large. Mais imaginez un enfant dans une goulotte de 2 mètres de profondeur avec un courant qui l'amène vers le large. Surtout s'il ne sait pas nager ou qu'il a des brassards ou qu'il est sur une bouée, ça peut être extrêmement dangereux.
C'est dangereux aussi pour les adultes qui ne peuvent pas lutter eux non plus contre le courant qui les aspire. Seule solution, nager sur quelques dizaines de mètres parallèlement à la plage.
Le souci, c'est que les gens, en fait, leur point de repère, la sécurité pour eux, c'est la terre. Donc instinctivement, ils vont nager pour essayer d'aller vers la terre. Ils vont se rendre compte que plus ils nagent et plus ils reculent parce que le courant est plus fort qu'eux. Et c'est là où ils paniquent. Ils s'épuisent et malheureusement, s'ils sont hors zone ou s'ils sont dans des heures où ils ne sont pas surveillés, ben c'est l'accident et c'est la noyade.
Si l'effet de surprise est tel, c'est qu'on oublie que la marée accélère considérablement son rythme et augmente son volume d'eau au fur et à mesure de son cycle de montée et de descente.
Il est 7h36, Laurence, à l'étranger, retour au calme à Hong Kong.
Le calme après l'intervention de la police hier pour évacuer des manifestants qui s'étaient introduits de force dans le parlement de l'ancienne colonie britannique. La presse officielle chinoise appelle ce matin à une tolérance zéro après ces incidents, des violences également condamnées par la chef du gouvernement pro-Pékin, Carrie Lam. Florence de Changi à Hong Kong.
La chef de l'exécutif, Carrie Lam, a pris la parole à 4h du matin du quartier général de la police. Elle n'a réagi que pour condamner cette violence et n'a toujours pas accepté de céder à aucune des revendications des manifestants. Le camp démocratique dénonce un piège dans lequel sont tombés les jeunes. Lee Chuck-yen est le président du Parti travailliste et fait partie des piliers de l'opposition.
Oui, évidemment que c'est un piège. Quand vous regardez la façon dont la police a géré la situation, vous voyez que les jeunes ont pénétré dans le bâtiment et la police a laissé faire. Où dans le monde aurait-on laissé se passer une chose pareille ?
Le seul fait que ce nouvel épisode de violence, comme celui du 12 juin, ait enfin fait réagir le gouvernement, semble prouver que, comme le regrettent les manifestants pacifiques depuis de nombreuses semaines, le gouvernement ne réagit qu'à la violence. Hong Kong, Florence de Changi, France Inter.
Carola Raquette, capitaine du navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch, devrait savoir dans les heures qui viennent si elle est remise ou non en liberté. Elle avait été arrêtée samedi pour avoir fait accoster son navire avec une quarantaine de migrants à Lampedusa, malgré l'interdiction des autorités italiennes. Berlin demande sa libération, tandis que Matteo Salvini l'a décrit comme une pirate. Pendant ce temps, pour le bateau et le reste de l'équipage, eh bien c'est l'inconnu et l'incertitude. Reportage de Timur Özturk.
Le Sea-Watch va-t-il repartir ? Difficile pour Thiel, un volontaire allemand, de répondre à cette question.
Le bateau est saisi par les autorités italiennes, ce qui veut dire que nous ne contrôlons plus les déplacements du navire.
Thiel a quitté le navire, il est à terre, à Lampedusa, mais les deux tiers de l'équipage sont toujours en mer, au large du port. C'est le cas d'Isis, une mécanicienne française bloquée à bord.
Ce qui est le plus compliqué, en fait, c'est de ne pas avoir de deadline, de ne pas savoir à quel moment on va pouvoir rejoindre la Sicile.
Les marins doivent rester pour entretenir le navire, même s'ils sont éprouvés par ces dernières semaines. Ariane, seconde mécanicienne, attend une hypothétique relève de son ONG.
On attend de savoir s'ils vont venir, quand ils vont venir, où est-ce qu'ils vont venir. Et à ce moment-là, les membres indispensables du navire pourront partir.
Pour autant, quand on demande à Ariane si elle s'engagerait pour une nouvelle mission de sauvetage, la réponse est franche.
Je ne sais pas comment l'avenir va se présenter du coup pour le navire ou l'organisation, mais tant qu'il y aura des gens qui seront en péril en Méditerranée, la question se posera pas pour moi. On nous a appris en mer que l'assistance est quelque chose d'obligatoire.
L'avenir du Sea-Watch est désormais entre les mains de la justice italienne, tant que ses enquêteurs n'en auront pas terminé avec le bateau.
Timur Özturk pour France Inter. L'Europe toujours sans gouvernail. À Bruxelles, le casting de la future équipe dirigeante de l'Union européenne reprendra ce matin. Les 28 n'ont pas réussi à se mettre d'accord jusqu'à présent sur les postes clés, postes à renouveler après les élections. Pendant ce temps, à Strasbourg, les députés européens feront leur rentrée. Les 751 députés élus en mai dernier s'attellent à l'élection de leur président en attendant la semaine prochaine celle des présidents de commission. Et cette fois, les nationalistes d'extrême droite, notamment ceux du Rassemblement national de Marine Le Pen, visent des postes à responsabilité, Maxence Lambrecq.
Les quatre principaux groupes du Parlement européen pourraient bien couper le cordon sanitaire et offrir aux élus du groupe Identité et Démocratie des postes à responsabilité. Si c'est le cas, le RN obtiendrait la présidence de la commission des affaires juridiques, à ne pas confondre avec les affaires judiciaires dont le parti est familier. Elle reviendrait à Gilles Le Breton, 60 ans, professeur agrégé de droit public, assez pessimiste quant à l'attitude de ses adversaires.
On entend des bruits de coulisses très inquiétants, hein, qui sont, semble-t-il, en train de se mettre d'accord pour nous priver des postes auxquels on a droit, auxquels le suffrage universel nous a donné droit.
Autrement, un Allemand de l'AFD présiderait la commission agriculture et une Italienne de la Lega serait nommée vice-présidente du Parlement. Mais si ce qu'entend Gilles Le Breton se confirme, alors le RN se consolera avec un observatoire des votes. Marine Le Pen a demandé à ses élus de lister tous les votes des 52 autres députés français pour en faire des arguments de campagne, démontrer les éventuelles contradictions entre les paroles et les actes, prouver qu'écologistes, marcheurs, socialistes et élus de droite s'entendent sur à peu près tout, annonce Philippe Olivier, bras droit de la patronne et coordinateur de cette mission. Mission confiée surtout aux assistants parlementaires du RN qui éplucheront pour cela procès-verbaux et compte-rendu de commission.
Et pour finir, Lyon, capitale du foot féminin ce soir, Laurence, avec une affiche très prometteuse.
États-Unis, Angleterre, une première demi-finale du mondial. Et depuis le début de la compétition, les deux équipes ont fait une forte impression avec 5 matchs remportés de part et d'autre. Les supporters français préféreront sans doute soutenir l'Angleterre plutôt que les Américaines tombeuses de l'équipe de France en quart de finale. Du coup, les Américains ont investi par milliers la capitale des Gaules. C'est le reportage de Christophe Vincent.
17 000 Américains ont réservé des forfaits hôtels plus billets, mais les professionnels en attendent le double. Dans ces 3 hôtels, Fabienne Guilhem en accueille 3 fois plus que d'habitude.
C'est un début juillet très intéressant. Cette clientèle vient, je pense, pour gagner cette Coupe du Monde. Donc, ce sont des non-séjours.
Guide conférencier Jean-Alexandre Benguigui constate cette déferlante d'Américains plutôt aisés.
C'est une très grosse semaine qui est aussi, si ce n'est plus, chargée que la fête des Lumières. Le fait de venir ici avec l'avion, le séjour dans un hôtel qui, généralement, est 4 ou 5 étoiles, c'est une certaine clientèle.
Parmi ces Américains, Rachel, joueuse à Chicago et Garth de Seattle.
L'égalité, le travail de ces femmes, le quatrième étoile, c'est bon.
J'espère que l'équipe des États-Unis est dans la finale contre Netherlands.
Hier soir, malgré l'orage, Lee s'est rendu au pub.
Je suis écossais, mais j'aime l'équipe Angleterre, les États-Unis 2 et Angleterre 1.
Les rares Anglais croisés partagent ce pronostic. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
États-Unis-Angleterre, c'est ce soir à 21h.
Merci Laurence Thomas.